France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, un patrimoine radiophonique.
Il y eut la musique, les études de théâtre, la bande dessinée, la publicité. Il y aura, mais après la série d'entretiens à voix nue, dont nous avons déjà pu entendre les trois premiers volets dans les nuits de France Culture, il y aura la politique, le combat sous une autre forme, député, puis sénateur jusqu'à sa mort, fin 2020. Mais lors de la diffusion de ces entretiens pour France Culture, nous étions au début des années 90. Voici les quatrième et cinquième volets de cette série. Première diffusion sur France Culture, les 21 et 22 octobre 1993. Et il était temps de revenir sur le film « L'heure des brasiers ».
À voix nue.
Aujourd'hui, Fernando Solanas s'entretient avec Robert Grelier. Quatrième entretien.
Fernando Solanas, hier, nous avions commencé de parler de l'heure des brasiers. Il y a des séquences assez extraordinaires dans ce film qui sont des séquences que j'appellerais choc, enfin pour nous en tout cas, et qui 25 ans après restent dans la mémoire de tout le monde. Notamment ces enfants courant sur le pont et suivant un train pour quémander des pièces de monnaie. Séquence que vous avez empruntée à Fernando Birri. Je voudrais savoir d'abord pourquoi vous avez choisi cet emprunt à Birri, un cinéaste argentin. Et puis, il y a les séquences de l'abattoir aussi, qui sont assez dures, assez fortes. Et la séquence aussi de ce concours agricole où on voit un taureau monumental, pour ne pas dire autrement, monter en parallèle avec la grande bourgeoisie, parée, portant fourrure, etc. C'est-à-dire que vous avez choisi vraiment à chaque fois des scènes très fortes, très dures, de provocation un petit peu pour amener un débat et pour amener un choc dans la tête des spectateurs. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut le voir encore aujourd'hui, ce film ?
Bon, je ne sais pas comment on peut le voir aujourd'hui. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, la réalité argentine, c'est pire. C'est pire. Je me souviens que dans l'époque, il y a eu beaucoup de journalistes et l'ambassadeur, et aussi l'ambassadeur argentin en France, quand le film avait été présenté à Cannes 69, qu'il avait protesté pour la projection du film parce qu'il disait qu'il était un énorme calomnie. Aujourd'hui, la réalité argentine, c'est pire. Aujourd'hui, à l'Argentine, il existe le choléra. Presque 1000 cas de choléra cette année, cet été. On a descendu absolument des niveaux de vie en rapport aux niveaux de ces années 60. La grande découverte que faisait l'heure des brasiers est qu'il racontait une histoire qu'il était interdite. J'ai raconté l'histoire du péronisme. J'étais critique aussi du péronisme, mais on ne peut pas être hypocrite et complice avec la gigantesque mensonge de culter une histoire. Alors ça a été le grand choc. Et l'autre choc était mettre la caméra dans tous les trous du pays pour montrer les choses que ces grandes parties d'Argentins, qui sont toujours des Argentins qui sont dehors du pays, avait occulté du pays et qui réagissait avec une certaine indignation. Comment j'osais de montrer certaines choses à l'étranger? C'est me critiquer pour pas patriote, parce que c'était dénigrer l'Argentine, montrer les misères.
Mais on a même dit que c'était votre film un anti-Borges. Dans la mesure où Borges n'a jamais parlé de l'histoire de l'Argentine de cette façon-là, n'a jamais...
Non, autre histoire raconte Borges. Borges raconte autre histoire. Borges exprimait les points de vue de la haute bourgeoisie argentine, toujours. sous le point de vue sur l'histoire argentine, etc., Borges, toujours s'assumait comme un Européen en exil. On ne dit pas ça, nous ne disons pas ça. Mes ancêtres sont espagnols, les miens. Mais j'ai devenu autre chose. C'est aussi la terre et ces civilisations en transe que c'est l'Argentine et l'Amérique du Sud m'ont changé. Je suis produit d'autre chose, d'une civilisation nouvelle. Alors je ne me sens pas un Européen en transe. Bien entendu que l'Amérique du Sud, elle reprend comme héritage les meilleures et les pires traditions de l'Europe. Si on voit ces 5 siècles de colonisation, sont atroces. J'ai fait mon film Les Voyages aussi pour reprendre la mémoire dans l'époque, dans cette invitation de réflexion sur les 5e centenaire de la découverte. On ne peut pas fêter rien de ça. C'était le plus grand et le plus féroce génocide que jamais s'est développé dans toute l'histoire d'Occident. 40 millions d'Indiens sont morts dans un demi-siècle, amenés à le travail forcé dans les mines comme des chiens, comme des bêtes. Pour les massacrer, on les a quitté la condition humaine. On n'était pas des hommes. On était des Indiens, comme on était des Noirs, les autres. Voilà, c'est une histoire que c'est honteuse qu'encore aujourd'hui, on part de fêter la découverte. Dans ces 5 siècles, l'Amérique du Sud était volée. Il faut voir le Cusco, les grands temples de Cusco qui n'étaient couverts d'or et qui ont été tout l'or, tout l'argent, tout ça. Il est venu pour enrichir les trésors de l'Europe. D'abord étaient les pierres, l'or, l'argent, après étaient le pétrole, le fer, le caoutchouc, etc., etc. Mais toujours l'Europe a pris l'Amérique du Sud comme une terre de conquête dans le sens des profits. D'abord était la destruction de l'homme. Pensez-vous qu'à l'Argentine, à la fin du siècle dernier, s'est commencée la guerre contre l'Indien. L'Indien avait contribué aussi à l'indépendance. L'armée de San Martin, que c'est l'héros national qui fait l'indépendance des Espagnols. Et Bolívar aussi, dans le nord de l'Amérique du Sud, avait lutté aussi avec l'appui des Andins. Et les gauchos étaient indiens, semi-indiens. Alors, 60 années après, c'est l'oligarchie blanche de la ville bourgeoise de Buenos Aires qui commence la guerre contre l'Indien, pourquoi? Parce que vient la conquête de terre, de la terre. Et c'est la massacre des Indiens. On paye 2 pesos, 1 peso pour 1 paire d'oreilles. Voilà. C'est curieux, car on lit maintenant, et aussi c'est le moment de la conquête de la Patagonie pour les Anglais. C'est féroce. C'est l'extermination de Onas et Llamaras à la Terre de Feu. C'est les invités pour manger la grande grillade, l'assado, empoisonné. C'est atroce. Quand on lit maintenant des révélations des soldats britanniques qui ont été dans la guerre de Malouine, c'est incroyable. Tous les massacres qu'on connaît maintenant, qui sont faits, et les fusillades des prisonniers argentins. Mais les choses plus remarquables, c'est cette habitude de couper des oreilles. Qui ont coupé des oreilles des soldats argentins à les Malouines. On ne connaît pas aucune transgression et aucun fait de violence commis pour un Argentin à aucun résident britannique à l'Argentine pendant la guerre des Malouines. Et cette habitude britannique de couper des oreilles, c'est incroyable. C'est extraordinaire. Alors, sont les idées qu'il faut. Il faut changer. On est contre toute forme de racisme. Mon film, Les Voyages, surtout part de ça. Il faut respecter les différences. Il faut respecter les cultures. Il n'existe pas une culture supérieure à autre culture. Il faut laisser à chacun choisir sa façon d'être. Être libre pour choisir sa façon d'aimer, rêver, penser, vivre. Alors, il faut respecter à l'autre. Il faut respecter les différences. Bon, on a milité toujours dans cette idée. Plutôt que je ne voulais pas réduire un discours autour d'une idéologie ou d'une expression politique, le péronisme, etc. J'ai milité toujours dans le sens de la recherche. Je me battu contre tous les sectarismes et l'orthodoxie de gauche comme de droite. J'étais une critique du marxisme orthodoxe et de toutes ces aberrations qu'on connaissait, qui passaient dans l'Union soviétique, etc. J'ai passé 8 ans de solitude, d'exil ici en France. Et chaque mois de février, je prenais le train pour aller à Genève, à la division des droits de l'homme des Nations Unies, avec des maires de la place de Mai, etc. Et on voyait comment les représentants soviétiques votaient contre nous. On voulait dénoncer la dictature argentine et les représentants des États-Unis et les représentants soviétiques votaient contre, défendaient la dictature argentine. Parce que l'Union soviétique, il avait de belles affaires avec des généraux. Je m'ai battu toujours. Je m'ai battu toujours en la défense d'une identité culturelle, en la défense d'une notion de la justice et de l'humanisme et d'une démocratie vraie. J'étais toujours contre toutes ces formes de totalitarisme, mais aussi de sectarisme, et aussi d'hypocrisie, de mensonges. Alors, bon, l'ère de Boissier, le choc de l'ère de Boissier, qui mettait en cause toutes les images. Voilà l'histoire vraie. Jusqu'à l'ère de Boissier, le péronisme era synonyme de fascisme, et après, avec l'ère de Boissier, non, le péronisme était une expression populaire, contradictoire, mais populaire, sale, mais pleine de force et de choses innovatrices. Qu'est-ce que c'est marxisme, péronisme, qu'est-ce que c'est? Non. Le marxisme, il n'est pas inventé la lutte de l'histoire, de le peuple dans l'histoire pour la conquête del progrès social. C'est le marxisme qui a inventé la lutte pour la liberté et la justice sociale. Non, c'est. D'abord, il existait le besoin de l'homme de chanter. Après, il est venu quelqu'un qui a commencé à écrire, à inventer une écriture. Voilà. D'abord, il existait le besoin éternel de l'homme, de liberté, de justice, de paix et de convivance civilisée, pacifique, harmonique, la civilisation urbaine en défense, tout ça. Alors, il faut être attentif, il faut être ouvert. Je pense que j'étais un homme ouvert. Et j'ai fait mes autocritiques et j'ai critiqué, j'ai fait publiquement mes autocritiques sans aucun orgueil. L'histoire, il a passé partout, si nous avons commis des erreurs, mais j'étais toujours à côté et j'ai couru de grands risques parce que j'étais à côté toujours des plus nécessités et de la cause de la justice et de la cause de la liberté.
L'ordre des Brasiers, c'est un appel à la lutte et en même temps, c'est un appel à la réflexion. C'est-à-dire, vous allez transformer l'écran comme en tableau noir. C'est un film pédagogique. Et après, vous allez totalement abandonner cette direction, puisque ça va être votre seul grand film documentaire, et vous allez rejoindre la fiction. Est-ce que ce tableau noir, cette pédagogie, elle se retrouve dans le film d'après, « Les fils de Fierrot » ?
L'ère de Boissier était le modèle pour construire l'ère de Boissier avait été un essai historique, un essai de réflexion. Et alors l'idée, la conception de l'œuvre, c'est ça. L'image, toute l'émotion dans l'image, et à partir de l'émotion des images de réalité vraie et forte, sort la réflexion. Il avait un jeu dialectique entre l'image et la pensée. Mais c'est un film fait pour mobiliser la conscience et réflexionner sur la réalité pour réagir. C'est un film conçu l'ère de Brasier comme un acte politique. Ça veut dire un fait pour passer à l'action. Les fils de Fierrot, par contre, c'est différent. C'est un film qui est né comme hommage au centenaire du poème Martin Fierro. Martin Fierro, c'est un gaucho qui se révèle contre l'armée de la ville de Buenos Aires qui vient à le prendre pour l'amener à lutter contre les Indiens. Voilà les choses que je viens de parler. Et alors, cet individu, cet homme neuf qui habitait dans son propre territoire, sa propre terre, qui était la Pampa, d'un jour à l'autre, arrive quelqu'un qui dit « la loi, c'est autre la loi, cette terre, c'est pas vous, c'est à nous, Et vous, vous êtes un vagabond, vous devez venir lutter contre l'armée, ou sinon vous irez à prison. Non, lutter contre les Indiens. Bon. Alors, avec cette tragédie, s'exprime, c'est fiction del gaucho, la tragédie del gaucho Martín Fierro, écrite pour Hernández, devient le plus grand poème national. C'est un poème d'une beauté littéraire et d'invention de langage extraordinaire, à tel point que Borges, qui ne soutient pas du tout ce point de vue del gaucho Martín Fierro, reconnu toujours que c'est le plus grand poème écrit dans l'Argentine. Un poème traduit dans toutes les langues, pratiquement. Bon, alors j'ai fait dans le centenaire du poème, inspiré dans le poème, j'ai développé une fiction, ça veut dire dans le poème il y a des personnages, et ces conflits de lutte pour la liberté, la justice, et cet homme persécuté que c'est le gaucho Martín Fierro, je le prends comme fontaine d'inspiration pour développer une espèce de poème, autre poème de geste, que c'est le poème de geste de toute la résistance populaire, 15 ans ou 20 ans de résistance populaire pour reprendre la démocratie et ses droits à l'Argentine. Et je le situe dans l'Argentine contemporaine, ça veut dire j'ai réécrit une fiction inspirée dans le poème Martín Fierro, je l'écris en vers aussi. Et je pense que peut-être c'est mon film plus tragique, plus fort, plus amer. C'est un film que j'ai commencé à tourner en 72, et un moment très difficile, de grands changements politiques dans l'histoire de mon pays. Après, tout de suite, arrive la dictature militaire, ou la violence à l'Argentine. J'ai fini très mal le film en 75. Il n'y a pas de conditions pour sortir, parce que il y a une énorme violence entre la droite et la gauche, extrême droite, extrême gauche. Personne ne veut passer le film. Et finalement, en 1976, je suis obligé à partir à l'exil. C'est comme si la dernière métaphore ou séquence du film se réalisait, parce qu'à la fin du film, les quatre personnages, encore une fois, se fait la séparation, les adieux. Bon, alors, évidemment, c'est le moment où tous mes copains du groupe Ciné Libération, nous partons pour différents continents et pays en exil, c'est un moment terrible, mais Le Fils de Fierro, c'est un film, une énorme pulsion, c'est un roman, c'est une chronique, pour la vie de la fiction, de 20 ans d'histoire de l'Argentine.
Et c'est en même temps un film qui a subi beaucoup d'avatars. Premièrement, il a été tourné en partie clandestinement. D'ailleurs, comment peut-on tourner un film clandestinement aussi ? Ça doit être pas très facile. Et puis, l'un des acteurs a été enlevé et assassiné, et un autre par la suite le sera. C'est-à-dire que c'est un film qui a subi beaucoup de...
Oui. À l'Amérique latine, et surtout dans ma génération, on avait réagi en face d'une attitude qui disait « Oh, beaucoup de problèmes, toujours, je ne peux pas tourner, bla, bla, bla », toujours excusé pour des tas de problèmes. Alors, quand on a fait l'ère de Brassier et Le Fils de Fierro, c'était une réaction contre ça. Pour faire un film, il faut se préparer, c'est la décision, c'est un projet. Un projet conditionne toute la vie d'une personne et change ta vie. Alors, il faut trouver les moyens, etc. Et cette attitude s'avait expandue pour l'Amérique du Sud. Il faut voir Jorge Sanguinés dans la Bolivie, il faut voir plusieurs des réalisateurs chiliens. Chaque de nous a devenu sa propre producteur. Et chaque de nous, avec astuce, on ne s'est pas imbécile, on a trouvé la façon de réaliser des choses indépendamment sans les dénoncer. Et on a travaillé toujours. Quand vous pensez que j'ai 57 ans, j'ai passé la plupart de ma vie entre dictature militaire et faux démocratie. Alors, j'ai développé un sens pour survivre, un sens d'astuce et de... Bon, et j'ai m'appuyé en beaucoup de choses. Mais Le Fils de Fierro, évidemment, c'est le plus tragique. Parce que l'ère de Brassier, quand j'ai fini l'ère de Brassier, c'est un moment de grand épique et de développement de la vague contestataire et révolutionnaire de l'Amérique du Sud. Le Fils de Fierro, c'est tout à fait le contraire. Je l'ai fini en 75, 76. C'est le coup d'État à l'Argentine. Déjà, ça a produit le coup d'État en Uruguay et au Chili, et au Bolivie. Le sud de l'Amérique du Sud c'est sur des dictatures militaires féroces. Et j'étais obligé, pour la première fois de ma vie, à partir en exil.
Comment se passe cet exil?
Bon, j'arrivais en 77, mais mon exil commence en 76. D'abord, j'arrive, je sors de Buenos Aires quelques semaines après l'arrivée du coup d'État de 76, de mars de 76. Mais je savais que commençait pour moi une époque de ma vie très difficile pour la première fois que je partais à l'exil. Les militaires disaient qu'on avait 10, 20 ans de dictature. Alors je partais avec un destin incertain. Bon, j'arrivais d'abord à Madrid. J'ai passé un an pour savoir dans quel pays je devais m'établir avec ma famille, mes enfants. J'avais deux enfants, ma femme, il avait aussi deux filles. Voilà, et c'est Paris, finalement, l'été de 77, que j'arrive ici. J'amenais aussi mon film « Le fils de Fierro », qui n'avait pas sorti à l'Argentine. Pour un moment, le moment plus pénible de ma vie, parce que je n'avais très mauvaise position économique, etc., sans travail. Et le pire quand on part à l'exil, c'est ce sentiment de duel, ce sentiment de faiblesse. Sortir à l'exil, c'est pas un immigré, c'est quelqu'un qui l'est forcé à partir, à laisser les choses. J'avais 40 ans. Bon, je restais ici, il faut le dire, je restais ici avec les conseils, l'appui moral surtout, que m'ont donné plusieurs des amis français qui me connaissaient de l'époque de l'ère de Boissier, et surtout un réalisateur que je ne connaissais pas. Je l'avais traité, pas comme réalisateur, sinon comme critique, dans l'époque de l'ère de Boissier, qui était Bertrand Tavernier. C'est Bertrand qui me dit, écoute, je ne savais pas où rester. J'avais travaillé toujours à Rome, mais il y avait une crise énorme à Rome. Mes amis Taviani faisaient padre padrone en coopératif avec la RAI. Et c'est Bertrand qui me dit, on peut t'aider ici. Tu es connu, il faut rester, enfin. Il m'a encouragé beaucoup. Alain Dumonté, son agent, aussi m'a encouragé beaucoup. Bon, on reste ici en France. Les enfants commencent bien l'école. Quelques mois plus tard, je trouve en 78 une proposition pour donner des classes de cinéma dans l'Institut audiovisuel del NAM, Conservatoire des Arts et Métiers. Lui, avant, était le directeur de cet institut, un grand physicien qui aussi s'occupait Del laboratoire d'insertion pour les personnes handicapées del NAM. Bon, ça a été une aide extraordinaire. Pour moi, la première fois que je me sentais avec un pied vrai, c'est pas avoir de papiers, c'est pas un problème, pas seulement matériel, c'est se sentir utile et encore avoir la condition de s'exprimer, de faire quelque chose. Quelques mois plus tard, en plus, c'est lui avant qui me propose aussi de faire un film. Ce film devait remplir un certain nombre de nécessités de laboratoire pour l'insertion des personnes handicapées, qu'il fonctionnait en l'ENAM. Venait l'année internationale des personnes handicapées et il avait besoin d'un film qui s'adressait à la communauté pour approcher la distance de compréhension entre ces parties handicapées et le reste de la société. Bon, finalement, ça c'est le début de mon troisième film, que c'est Le regard des autres, un film à caractère documentaire que j'ai travaillé avec Monique Saladin, une formidable collaboratrice qui avait fait une belle enquête sur le sujet. Bon, on a fait le tour en France pour choisir finalement 22 cas caractéristiques sur différents types de handicapés. La thèse était évidemment la société développe différents niveaux d'handicapés, de naissance ou pour accident, etc. Et finalement, la société ne se prépare pas pour les contenir. En plus, il y a une tendance à les rejeter et les confiner dans des ghettos. En plus, dans ces recherches, on a eu un contact avec à peu près 70 handicapés, longues conversations, etc. En sortie de toutes ces recherches, me restait à moi un regard d'une lucidité et d'une objectivité et d'une maturité très rare. Peut-être c'est le regard de quelqu'un qui est un petit peu marginalisé, discriminé de la société, qui vit un certain malheur intérieur, et de ce malheur finit avec un regard d'une rare humanité et compréhension. Bon, on avait décidé alors faire un film où les paroles devaient être à des handicapés. Il n'y a pas aucune parole à nous. C'est un cahier de confession. Et j'ai cherché comme modèle faire un film comme s'il était en synthèse des petites confessions à une psychoanalyste ou à quelqu'un, un psychothérapeute, à quelqu'un qui est en disposition à écouter, en confession vraie. Et j'ai sorti aussi à chercher cette vérité. Et j'ai vu aussi de vraies batailles avec quelqu'un de ces handicapés qui, pendant l'enquête, avait donné une énorme sincérité et qui, après, dans les moments de tournage, avait peur ou panique de raconter les mêmes histoires. Je voulais avoir une espèce de miroir de l'âme. Et je pense que le film, il a ses mérites, qu'il a plein de sincérité. On a parlé de tout type de problème, aussi jusqu'à la sexualité. Et je pense que le film, c'est comme tous les films de rapport, dans le noyau de ce film, c'est la recherche de l'amour. Et c'est un film de l'amour et pour l'amour des autres. Et en plus, c'est un film sur la discrimination et le racisme quotidien. Finalement, la société, tout type de société, il y a des expressions, certaines modalités et expressions de ségrégation et discrimination, conscientes ou inconscientes, sont là. Bon, je ne sais pas que bon, le film, c'est très bien parce que sans avoir une ligne argumentaire, sans avoir une structure dramatique conventionnelle, ces cahiers de confession impose une clé, une convention, un rapport avec le spectateur extraordinaire, et on passe 1h40 en phase de confession d'une façon très simple et très émotive. Le film a été présenté à la perspective du cinéma français dans le festival de Cannes del 80. Il a été diffusé pour Antoine 2. En plus, il avait sorti une sortie cinéma en plusieurs villes.
À voix nue. Fernando Solanas s'entretenait avec Robert Grelier. Réalisation Nicole Salerne. Demain, 5e et dernier entretien.
Nous n'attendrons pas 24 heures pour suivre le 5e et dernier entretien. Fernando Solanas, Robert Grelier, le voici.
À voix nue.
Aujourd'hui, Fernando Solanas s'entretient avec Robert Grelier, 5e et dernier entretien.
Fernando Solanas, comment avez-vous été amené à réaliser Tango, l'exil de Gardel?
Je commence à écrire un film fiction différent. Ce film, premier sujet, s'appelait Les Tangos d'Homère. Homère, un personnage fiction. Mais dans cette idée, ce scénario, il était l'idée centrale de le film Tangos, l'exil de Gardel. Je raconte tout ça parce que un réalisateur, c'est le film que lui arrivait à faire, mais aussi tous les films qu'il a rêvés, qu'il a écrits, qu'il n'arrivait jamais à faire. J'ai écrit 12 scénarios originaux et j'ai fait 5. 5, le sixième, c'est Le regard des autres, que c'est un film commande, c'est pas un film qu'il a sorti. C'est pas l'idée à moi faire ce film-là.
Je voudrais que l'on revienne sur L'exil de Gardel.
D'accord. Et dans L'exil de Gardel, bon, c'est le drame de l'exil, bien entendu. J'ai commencé ce film à écrire dans les 80-81 et j'ai passé 5 ans pour arriver à le produire. J'ai frappé toutes les portes. Pour moi, être en exil était un exercice extraordinaire de recommencer de zéro. J'ai vu plusieurs partenaires dans la production. Aussi, j'ai vu Agomon comme partenaire dans la production de Les Fils de Fierro. On a vu des conflits parce que finalement, Agomon avait eu sa crise de production, nous avait quitté, finalement, il a resté. Enfin, très compliqué, tout ça. J'ai fait un énorme effort de volonté pour amener ces films à bon terme, que finalement, j'ai commencé à les tourner en 1985. Ça veut dire quand l'Argentine est revenue déjà à la démocratie. En 1983, je commence à retourner à l'Argentine. En 1984, je commence à organiser la production de ce film. Et j'ai construit une coproduction entre la France et l'Argentine, la première coproduction. Le film, finalement, commence à se tourner après beaucoup, beaucoup de problèmes et de péripéties, de choses incroyables. J'arrivais à croire qu'il avait une espèce de fatalité contre ce film-là. Finalement, je l'ai commencé à tourner le 3 janvier de 1985 et j'ai tourné 6 semaines en France et tous les antérieurs, je les tourne à l'Argentine. Et finalement, le film, il est présenté au Festival de Venise de l'année 1985 avec un très bel succès. Bon, L'exil de Gardel, c'est peut-être le film où j'arrive à exprimer tout le travail, toute la connaissance que j'avais sur les différents langages, artistiques, toute ma connaissance musicale, chorégraphique, théâtrale, sont dans les tangos L'exil de Gardel. C'est un hommage à ces années d'accueil que la France m'avait donné, et c'est un hommage à les liens profonds entre le peuple argentin et le peuple français. Il faut comprendre qu'ici, en France, il a passé ses derniers 25 ans de sa vie, le général Saint-Martin, qui est l'héros de l'indépendance de l'Argentine. 25 ans. Il est ici entre 1825 et 1850. Il trouve sa mort à Boulogne-sur-Mer. Il avait été aussi ami de Lamartine. Enfin, il avait une vie très intéressante ici, très peu connue. Bon. J'avais trouvé cette idée intéressante. Nous avons envoyé à Saint-Martin en France, et la France l'avait accueilli, et la France nous avait envoyé beaucoup d'immigrés à l'Argentine. Entre ces immigrés, il avait arrivé vers la fin du 19e, un jeune couturier avec son petit garçon de 3 ans, qui s'appelait Charles Gardel, et qui avec les années del 20e siècle, Charles Gardel est devenu Carlitos Gardel, le plus grand chanteur, inventeur du tango chanson et aussi le plus grand compositeur de tango chanson de toujours. Et alors, ce rapport, je trouvais très intéressant, il est dans le film, sort de hommage à notre rapport. Et aussi, c'est un film sur le rapport culturel, intellectuel et de création entre les Français et les Argentins, les différentes modalités entre le cartésianisme et un certain regard européiste, eurocentrique, et la façon spontanée, mais inventive, imaginaire, et la façon où nous organisons toujours le désordre. Nous disons que la création, c'est toujours le chaos et le désordre. La création, c'est l'imprévu.
Et c'est un film dans lequel vous allez introduire une dimension nouvelle, la poésie.
C'est un film poétique, et c'est un film sur la création, et c'est un film où je profite beaucoup des conventions théâtrales, conventionnelles, la convention dramatique, un sens du jeu. Et c'est un film onirique aussi, ce mélange de rêves, de jeux, de souvenirs, de mélancolie. Enfin, je pense que si, c'est un film riche dans tous ces sens-là, et aussi je l'ai conçu comme une espèce de pièce théâtrale opéristique. Il est divisé en quatre parties, en quatre actes, avec son petite ouverture, des petites chansons.
Et vous allez reprendre ce rêve dans le film Sud, où là, vous allez approfondir, développer en quelque sorte ce qui était déjà dans le tango.
Je pense que le tango, il est complété pour le Sud. Les deux films se développent dans les mêmes époques historiques. Tango se développe à l'extérieur, en France, l'exil extérieur. Et le Sud, c'est la même époque à l'intérieur du pays. Mais bien entendu, c'est autre milieu social. C'est une histoire qui se développe dans un quartier populaire, dans la nuit d'un quartier populaire. L'histoire de le Sud commence quelques jours avant les élections générales del 83, que c'est la fin de la dictature militaire, où toutes les rues sont pleines de tracts, on sent tout le moment des campagnes politiques, du changement. Et c'est la nuit où quelqu'un va sortir de la prison depuis quelques années en prison pour revenir à son quartier et à sa femme, à sa vie, à son amour. C'est le film du retour. C'est aussi mon retour, mon approchement à ce pays où la première chose que je rencontre, c'est un grand personnage de ce film qui s'appelle Les Mortes, qui est le personnage le plus vivant de tous. Et bon, c'est le retour à l'amour, c'est le retour à l'essence, et c'est le retour à la démocratie. C'est un film qui se développe de la nuit à l'aube, de la dictature à la démocratie, del brouillard à le matin, le soleil, et de la séparation à la rencontre. Le tango sud, que c'est le tango plus classique de les années 40, un grand classique de toujours, raconte une histoire de quelqu'un qui revient à son quartier avec l'idée faux de retrouver les choses que lui a laissées et retrouver son amour. C'est une tragédie, un drame pérennel qui retourne toujours dans son esprit espoir de retrouver quelques traces de son époque.
Oui, mais c'est
comme... tout a changé, mais pas seulement le monde extérieur, les êtres ou les roues, ou les objets, lui-même a changé. Ça, c'est le drame.
Mais c'est comme quand on est adulte et qu'on veut retrouver les lieux de son enfance et les personnages de son enfance, c'est la même chose.
C'est la même chose.
Est-ce que vous êtes un cinéaste de la nostalgie, ou du moins de la mémoire, mais d'une mémoire un peu amère, un peu nostalgique? Car il y a toujours...
Oui, je pense qu'en tel qu'Argentin, je suis au Porteño, habitant de la ville de Buenos Aires, je partage ma condition d'être mélancolique, le tango, tout ça. Mais je pense que j'ajoute aussi autre côté bien Porteño, bien Argentin, que c'est l'humour. Rire de les autres, mais aussi rire de moi-même.
Vous venez de parler de l'humour. Il ne me semble pas que cet humour... apparaît dès le film L'exil de Gardel. Par contre, il va vraiment être un puissant détonateur dans le dernier film, Le Voyage, où justement c'est un film très drôle, c'est un film pas comique, c'est pas une comédie, mais c'est un film où vous riez vraiment de situations dramatiques. C'est une tragicomédie. Et là, vous allez atteindre la plénitude, en quelque sorte, de toute cette thématique que vous avez accumulée pendant des années. Le voyage serait, pour moi, un peu le point d'orgue. Je ne vais pas dire que c'est votre film testament. Non, pas encore. Mais c'est le point d'orgue un peu d'une maturité, d'un cinéaste qui connaît bien la vie, qui sait ce dont il parle.
Je pense que dans Le Voyage, mon dernier film, c'est un film que j'adore, c'est un film peut-être où sort quelques caractéristiques plus marquées du cinéma que j'ai réalisé. D'un côté, le mélange des genres. Je pensais toujours qu'il faut sortir de la cosification des types de cinéma. On n'a pas aujourd'hui en face d'un roman, on est en face d'un livre, que c'est un mélange de romans, introspection psychanalytique, chronique, histoire, etc. C'est beaucoup plus libre, la notion d'aujourd'hui. Et j'ai cherché à construire mon identité cinématographique en la recherche de liberté, liberté de création. Bon, la mélange des genres, c'est une caractéristique de tous mes films. Dans la même structure d'un film, et organiser, évidemment, toutes ces matières dramatiques, je passe d'un niveau à l'autre avec une énorme, je pense, fluidité. Je passe de les choses intimistes à l'épique, de lo dramatique à le grotesque, par exemple. Et à la recherche toujours d'un cinéma où tu es au service de l'image. L'image, c'est les choses qui comptent plus. Je pense que l'image, c'est quelque chose, quand l'image c'est fort, c'est l'image qui va rester dans la mémoire, va mobiliser.
L'image, mais aussi la musique, parce que, comme on l'a déjà dit, la musique est quand même très importante, et le son. C'est-à-dire que vous réussissez une synthèse entre l'image et le son, qui sont éternellement des contrepoints.
Évidemment, comme tous mes autres films, Le Voyage est un film très musical, mais Le Voyage aussi, il y a beaucoup d'autres caractéristiques. D'abord, c'est un film qui fait un énorme voyage. Il va de la Terre des Fées, la Patagonie, il traverse toute la Patagonie, l'Argentine, le Pérou, le Cusco, l'Amazonie, et j'ai fini le film au Mexique. Bon, c'est un énorme fresque, c'est une énorme réflexion, beaucoup de réflexions sur l'Amérique du Sud, que beaucoup de critiques ont parlé que c'est le anti-Christophe Colomb, ce film-là. Évidemment, ce film parle d'autre histoire, rappelant la mémoire des vieux peuples, notre personnage protagoniste, que c'est un jeune adolescent, qu'il sort de la ville d'Ushuaïa, où lui habite dans la Terre de Feu, sort à la recherche de lui-même, dans ses voyages de type initiatique, lui va à la recherche de son identité, de son père. Ce sont 10 ans qu'il ne voit pas son père, mais pendant tout son pèlerinage, où il va être confronté à beaucoup de péripéties, des aventures, etc., bon, il va retrouver la trace des autres moments, des autres voyages de l'histoire d'Amérique. Il va retrouver la trace des peuples anciens, aussi la trace de la conquête et la trace de l'indépendance. Ça veut dire, dans ce film, comme vous disiez, il a la mémoire, il a la recherche d'identité, mais aussi c'est un film plein d'imprévus, plein de personnages fantastiques. C'est un grand hommage que j'ai fait à la bande dessinée. J'étais scénariste de bande dessinée dans ma jeunesse. Bon, c'est un film que j'ai conçu comme une énorme bande dessinée, plein d'humour. Et c'est un film où j'ai vu le travail d'inventer l'image, parce que la ville de Buenos Aires n'a pas submergé dans les eaux servies. J'ai inventé une ville de Buenos Aires submergée où les habitants sont habitués à vivre avec l'eau à la ceinture ou jusqu'au queue. Alors c'est ça, parce que c'est l'habitude, peut-être une grande partie de la population qui s'est habituée petit à petit à des choses incroyables, à des choses affreuses. La corruption, la perte des valeurs, la perte des conditions d'existence, etc. Bon, on peut rire ou on peut pleurer en face de ces films. Le rapport des Nations Unies dit que 80% de la richesse mondiale, il vient pour les 20% de la population qui est dans le nord. Et les 80% de la population mondiale restent avec les 20% de la richesse. Ce n'est pas possible. Et en plus, chaque année sort, par exemple, de mon pays, plus divise que jamais. Dans les dernières 15 ans, ont parti de l'Argentine 150 000 millions de dollars. Voilà les chiffres. 150 000 millions de dollars ont parti de l'Argentine. La crise et la pauvreté de l'Argentine d'aujourd'hui, c'est à cause qu'il n'y a pas investissement, qu'il n'y a pas capitalisation, qu'on ouvre les portes du pays pour que le capital, les sous-signes, tout part du pays. Alors, on cherche autre monde, un monde qui met le respect à la nature, à l'écosystème et à la vie sur tous les autres problèmes, d'abord. Et, en deuxième rang, le respect absolu à toutes les différences. Nous cherchons une voie multiculturelle, multiraciale, de liberté, en cherchant différentes hypothèses pour réagir en face d'un univers, un monde qui tombe. Et voilà le voyage, c'est le portrait d'un monde qui tombe, qui coule. C'est le début du film, où tombe ce gigantesque bâtiment. C'est extraordinaire l'histoire de ce bâtiment, que c'est l'ouverture du film. Vous ne le connaissez pas, je vous raconte. Ça a été le plus grand hôpital d'enfants que s'avait construit dans le pays. Dans l'époque de la chute de Perón, il était pratiquement achevé. Mais comme c'est l'œuvre du dictateur, entre guillemets, il reste comme ça. Aucun gouvernement ne va le toucher. Il sera envahi pour des marginaux qui n'avaient pas de maison. Finalement, dans l'année 90, le gouvernement mène un truc comme solution. Quitter à tous les habitants du bâtiment et contracter une entreprise à location française pour les dynamiter. C'est dynamiter les bâtiments. 6 millions de dollars. Il manquait 50 millions de dollars pour le mettre en fonctionnement. Vous comprenez, dans un pays où mort les enfants parce qu'il n'y a pas de lit dans l'hôpital. La dernière, le président, qu'on voyage beaucoup à l'étranger, achetait un avion à mesure, avec du lit matrimonial dans l'avion, pour 62 millions de dollars. Vous comprenez? Ces ensembles d'irresponsabilités et corruption et banalité sont dans le fond du sentiment de ces films-là.
Solanas, est-ce que vous êtes encore un cinéaste?
L'année 89, c'est l'année des changements. De l'élection présidentielle. Il était le fracas absolu du gouvernement radical d'Alfonsine, qui finit avec une inflation de 2000% et les gens qui prennent pour assaut les supermarchés, etc., etc. Bon, en face du projet libéral économique des radicaux, qui était le candidat Angelos, il avait un ensemble de partis qui soutenaient aussi à Menem, avec un projet politique tout à fait le contraire. Démocratique, populaire, d'autodéfense de l'économie nationale, etc., etc. Bon, Menem a trahi, à la semaine d'être élu, a trahi en 360 degrés le programme. Après un an de campagne électorale, de proposer, décider, le vote populaire, le vote des citoyens, il n'y a pas aucune valeur. Lui a commencé à réaliser le projet de l'extrême droite du pays. Une énorme trahison. J'ai osé le ton et j'ai dénoncé publiquement que les plus grandes violences contre la démocratie, c'est pas respecter le mandat de voix. À partir de ça, tout c'est une inégalité absolue. La deuxième chose qu'a fait Menem, c'est privatiser d'un jour par l'autre toutes les chaînes de télévision, avant de discuter la loi de radiodiffusion. Ça veut dire quitter ces sujets gigantesques du débat public et démocratique. Et alors, la donner pour des sous à chacun des groupes économiques qui faisaient le monopole de l'information et qui partageaient l'idée de Menem pour être associé à la privatisation du patrimoine national. Alors, on ne peut pas dire qu'il n'existe démocratie. Il y a la guisade d'une démocratie à l'Argentine. Mais la télévision, que c'est plus important dans notre pays que toute la culture, les universités, la presse écrite, il est dans la main de 3 ou 4 familles. Si vous n'êtes pas d'accord avec les idées et les points de vue de ces familles, vous ne passerez jamais. Aucun des grands sujets du pays, on a vu un grand programme à la télévision, surtout le thème du pétrole. Le pétrole encore mobilise des armées entières pour la défense du pétrole. On a vu la guerre du Golfe. L'Argentine, un pays grand producteur de pétrole, bon, il a privatisé d'un jour à l'autre tout le pétrole. la principale fontaine de ressources économiques de l'Argentine. Je vous parle de la principale ressource de fontaine économique de l'Argentine. Une opération d'une gigantesque corruption la a privatisée à 10% de son valeur. Aucun cet imbécile dans ce monde. Il ne reste pas des innocents. C'est impossible de vendre le pétrole à 10% de sa valeur. L'Argentine a vendu pour moins de 1000 millions de dollars de ressources équivalentes à 45 000 millions de dollars. Alors, opération de corruption extraordinaire, en aras avec l'envie de trouver une stabilisation circonstancielle de la monnaie, l'Argentine a vendu tous ses actifs, sa principale fontaine de patrimoine. Et tout l'a fait mener. Alors, évidemment, j'étais peut-être le premier à dénoncer tous ces faits publiquement. Et j'étais automatiquement interdit dans les chaînes de télévision. De ces fils de voyage, il n'a sorti aucune nouvelle jusqu'au moment où j'étais intimidé pour un procès judiciaire que m'avait mis le président Menem dans l'année 91.
Quel procès c'était ?
Je l'ai dénoncé. Évidemment, il ne passait pas par la télévision, il ne passait pas pour les grands journaux, mais passait pour des petites revues et en certaines auditions de radio. S'est développé un énorme mouvement de radios libres. Menem me commence un procès à moi et à la présidente du mouvement de la maire de Place de Mai, Eva de Bonafini. Un procédé pour calomnie et injurie. A été exactement à la fin du tournage de Le Voyage. Bon, je me présentais à la justice fédérale, mais toute la presse déjà avait fait écho. La nouvelle avait sorti du pays, certaines agences internationales avaient pris la nouvelle. Alors, j'ai ratifié toutes mes dénonciations. Je peux parler 10 heures dans toutes les dénonciations. Le lendemain, j'étais agressé par un commando. J'ai reçu 12 tirs de pistolet dans les jambes et j'ai été opéré pour les 6 balles qui avaient resté dans les jambes. J'avais 4 fractures. J'étais obligé d'être 3 mois dans les lits, 6 mois de récupération. J'étais obligé à la postergation de mon film, la finition de mon film, qui devait être présenté au Festival de Venise le 91, finalement. Tout s'est passé comme ça. Menem cherchait à m'intimider. Menem cherchait que je devais partir encore une fois du pays. Alors j'ai décidé de rester et de continuer à parler. Et j'ai profité de ces semaines de l'attentat qui a provoqué une réaction extraordinaire avec des manifestations et était dans la première page de tous les journaux, tous les grands journaux, de droite, de centre, de tous. On était obligés à faire des éditoriels. Aussi une énorme solidarité de l'étranger. On arrivait des milliers de lettres. Bon, ça m'a donné une énorme force. Et j'ai compris aussi qu'il avait une responsabilité que je ne pouvais pas les laisser.
Est-ce que vous allez encore faire des films ?
Pourquoi pas ? J'ai passé 10 ans sans faire aucun film entre le 75 et le 85. En 37 ans de profession dans le cinéma, j'arrivais à faire 6 films.
C'est bien peu.
Alors, pourquoi pas ? Peut-être dans les prochains 2, 3 ou 4 ans, je ne fais pas, mais encore, je continue à écrire des films. Je continue à travailler pour impulser un énorme mouvement, pas politique, un énorme mouvement socioculturel politique. La crise du pays est tellement grande qu'il ne se résoudrait pas pour ensemble un changement politique. Cette crise de valeurs énormes, crise de projets de vie. Et la politique, c'est toujours l'instrumentalisation, le travail pour réaliser un projet de vie, un projet de société. C'est une conception culturelle. Nous voulons aller vers une Argentine de pleine participation, une Argentine d'une démocratie intégrale de pleine participation, une démocratie évidemment solidaire de signes sociaux, solidaire et d'intégration avec les autres pays de l'Amérique latine, mais il faut faire une réforme profonde dans la politique, dans le judiciaire, dans le social, dans le culturel, pour une réforme de la Constitution nationale vraie. Pour mettre les droits de l'homme dans la Constitution nationale, les nouveaux droits politiques, les droits culturels, les droits sociaux et les droits à avoir un patrimoine public libre de toute contamination, ça veut dire droit écologique, dans la Constitution. Et nous voudrons surtout la démocratisation des moyens de communication, démocratiser la télévision. Pourquoi je suis dans la politique maintenant? Je pense que jamais il a vu une ligne divisoire entre ma vie artistique ou cinématographique et ma vie politique. Quand j'ai fait l'ère de Boissier, mes adversaires disaient, mais voilà, ce n'est pas le cinéma, c'est de la politique. Solanas, vous devez faire de la politique. Maintenant que j'ai commencé à faire de la politique de façon ouverte pour la première fois dans ma vie, parce que jamais j'ai vu aucune ambition de type électoral, mes adversaires me disent, Solanas, vous êtes un poète, pourquoi vous venez dans la politique? Il faut revenir au cinéma.
À voix nue. Fernando Solanas s'entretenait avec Robert Grelier. Réalisation, Nicole Salerne.
Quatrième et cinquième volets de la série D'A Voix Nue ont été diffusés pour la première fois sur France Culture les 21 et 22 octobre 1993.